Salut, salut, c'est mes petits lus. Mes petits lus, c'est le podcast du blog Écrire de la fiction. Bienvenue. Dans mes petits lus, nous parlons de lecture, d'écriture, de littérature. Allez, en voiture. Je vous lis aujourd'hui le chapitre 3 des histoires vraies du bougreloche. Vous êtes prêts ? Timothée Douracuir était de ces mômes taciturnes qui s'ennuient à longueur de journée le nez collé au carreau de la cuisine. Il montrait d'ailleurs très peu, voire pas du tout, d'intérêt pour les événements rythmant la vie de son quartier. Fête foraine, foire aux lentilles, aux olives, noces, banquets, baptêmes, rixes ménagères, engueulades paroissiales, campagnes électorales, cuites mémorables, funérailles et commémorations de tout acabit, tout cela le laissait de marbre. Les autres gosses se précipitaient hors de chez eux à la moindre occasion. Le jeune Timothée, lui, soupirait seul dans son coin. Il était blasé de naissance. Il rêvait d'ailleurs. Sa vie de famille dans la proche banlieue de Saint-Lazare était loin de le satisfaire. À une exception près, grosso modo 4 fois par an, l'orchestre municipal s'installait dans le jardin de la sous-préfecture pour 2h30 de concert public. Le jeune Timothée affichait alors un sourire béat de grand benêt. À l'heure dite pour le début du concert, il disparaissait. Il courait se glisser sous l'estrade, au plus près possible des musiciens. Invisible au regard des passants, il s'allongeait au centre, les bras en croix, et fermait les yeux. Il cessait de respirer, égrenant silencieusement les secondes jusqu'au petit coup de baguette du chef sur son pupitre, annonciateur de musique. Puis, il partait en voyage. Il larguait les amarres avec les violons, chevauchait dans de verts pâturages au son du piano, s'envolait sur les hautbois, pénétrait de sombres forêts avec les timbales. Pendant plus de 2 heures, rappel compris, il vivait dans et par la musique. Elle vibrait au plus profond de lui, triturait sa corde sensible et le laissait émerveillé et pantelant, lessivé, rasséréné pour quelques heures, nettoyé de l'intérieur, propre comme un sou neuf. Il rentrait ensuite chez ses parents et se rencognait sagement dans sa vie tranquille d'écolier jusqu'à l'annonce du concert suivant, quelques 3 mois plus tard. Son désir, secret, était de devenir lui-même chef d'orchestre. Hélas, le pauvre gosse était affligé d'un sens du rythme très particulier. Les notes vivaient en lui, certes, mais elles refusaient d'en sortir sous quelque forme que ce soit. Il entendait bien, mais chantait faux. Battant la mesure, il perdait tous ses moyens à peine comptés jusqu'à 2. 3, il était dans les choux. 4, il fondait en larmes. Ce ne fut pourtant pas faute d'essayer. Jamais il ne parvint à battre la mesure dans le temps. Il était irrémédiablement englué dans sa monotâche. Soit il écoutait, soit il écoutait. Pour couronner le tout, comme ses parents l'aimaient beaucoup, il se moquait de lui à la moindre occasion, croyant ainsi l'endurcir pour mieux le préparer à la difficulté de la vie. Le jeune Timothée rangea son rêve secret bien au fond de son petit cœur, ravala ses larmes, puis, soucieux de donner raison à ses parents comme un bon petit gars, entrepris de s'endurcir. Il ne serait pas chef d'orchestre, c'est entendu, mais il fit vœu d'être chef malgré tout. Dès lors, il s'y employa assidûment. Puisqu'il savait compter jusqu'à 2, il fit l'école militaire, où il dut se farcir la mort dans l'âme un tas de clairons, cymbales et grosses caisses à vous donner des cauchemars. La musique militaire est à la musique ce que le hamburger est à la gastronomie. Qu'à cela ne tienne. Il persévéra. Animé d'une volonté farouche et soucieux de bien faire, il fut vite remarqué par ses supérieurs et devint rapidement officier. La grande armée de tout compte fait, comme nous l'avons vu, comportait à peine quelques dizaines de joyeux drilles en uniforme de cérémonie. Il grimpa toutes les marches de la grande échelle hiérarchique au pas de charge et utilisa à plein régime l'ascenseur social, faisant si bonne figure dans les salons et les antichambres qu'il fut blackboulé vice-ministre de la guerre et de la paix lors d'un remaniement ministériel quand le poste se trouva libre alors qu'il passait par là. C'est vous dire si cette histoire de nuages tombe à pic. Douracuir boit du petit lait. Depuis le temps qu'il rêve de tordre le cou à l'ennui qui ronge ses journées, voilà qu'enfin une occasion en or se présente. Jamais, dans ses rêves les plus audacieux, il n'aurait imaginé avoir à résoudre un mystère aussi mystérieux. À peine les savants ont-ils vidé les lieux, qu'il se rue dans la salle du trône pour plaider auprès de Merlin l'absolue nécessité de décréter une mobilisation générale. Merlin rêvasse, comme à son habitude. Coquine se tient debout près de la fenêtre sud, d'où elle a une vue plongeante sur les jardins. Elle supervise, de haut, le nettoyage. Par la fenêtre ouverte, montent les voix des jardiniers et le bruit d'un bac à roulettes qu'on traîne sur le gravier. Ça sent l'herbe coupée. « Une mobilisation générale, comme tu y vas !»« J'ai un plan, ta majesté. Oh, je n'en doute pas !» Je vais suivre à rebours le chemin des cumulonimbocardius. Nimbocardiocumulus, dit Coquine à qui rien n'échappe. Il suffit de remonter le courant jusqu'à la source, rien de plus simple, dit Douracuir. Avec une armée? Merlin résiste. Douracuir hésite. Pas question de laisser s'éloigner la chance de sa vie. Il faut manœuvrer au mieux afin de ne pas braquer Merlin sur un refus définitif. Peut-être lâcher un peu du lest.
Une petite armée.
Mou de Merlin.
Encore du lest. Quelques hommes?
Merlin ne répond toujours pas.
En vérité, il est embarrassé par cette histoire de nuages. Tout se rouge, il ne sait que penser.
Le vol de nuit de la gigogne argentée, ça, oui, c'est un vrai sujet. Il a contraint l'infortuné messager à lui raconter encore et encore et encore 3 jours et 3 nuits sans quitter les airs. Comment est-ce possible? Il ne rêve que d'exploits aériens, si seulement sa condition de roi ne l'obligeait pas à rentrer au nid chaque soir. La barbe.
Allez, s'il te plaît, dis oui, ta majesté.
Pardon?
Que dis-tu, Douracuir? Ah oui, les nuages. C'est tout à fait grotesque. Sûrement l'émanation d'une industrie lointaine. Une illusion d'optique, qui sait? Des conditions météo exceptionnelles en altitude?
Tu ne veux pas savoir, ta majesté?
Qu'importe, les nuages passent, non?
De nouveau, la voix de Coquine se fait entendre. Et si tout fout le camp avec, comme à loin du compte, n'oublie pas les difficultés économiques, les problèmes rencontrés par les branques, les factions. Merlin et Coquine échangent un regard. La souveraine est inquiète, ce qui gâche un peu le goût du potage. Peut-être faut-il agir, en définitive.
Combien d'hommes veux-tu? Demande Merlin.
Risquons le tout pour le tout. Si Coquine est de mon côté, il y a une chance que ça passe.
Seulement mes hommes, ta majesté, je veux dire les soldats du royaume?
Tous ceux qui marchent et portent un uniforme, là.
Ah non, pas question de dégarnir ça à Lazare. Une armée contre des nuages, a-t-on jamais vu ça? Pourquoi faire?
Douracuir est allé trop loin. Ce Merlin-là n'est pas trop mauvais, comme roi. Plutôt bienveillant et souvent généreux. Mais se priver de garnison, même pour faire plaisir à un vieil ami, non. Non, vraiment non.
Plus il plaide sa cause, plus il se heurte à un refus. Plus Douracuir brûle de partir.
C'est insupportable. Il n'a pas assez préparé l'entretien. Il voit sa chance lui filer sous le nez. L'herbe coupée sent le roussi tout à coup. Réfléchis, Timothée, réfléchis. Et d'abord, tais-toi. Ne rajoute pas. Un mot maladroit risque de tout compromettre. De toute façon, Merlin ne m'écoute plus. Les coudes sur la table, menton appuyé dans les paumes, Merlin réfléchit à haute voix, comme il sied à un roi débonnaire. Il faudrait se frayer un passage à travers la forêt de grosses liandes, traverser à marche forcée le désert des Tauruques,
peut-être aussi franchir le mont au caillou. Combien de temps devriez-vous partir ?
Qui peut savoir ? Oh non, vraiment non.
Douracuir voit s'évanouir pour de bon la chance de sa vie. En cet instant, il déteste proprement Ta Majesté. Une telle promesse est contraint de rester chez soi. Tout à coup, une idée, n'ayons pas peur de le dire, géniale, lui traverse l'esprit.
Ta Majesté, pense que, quoi qu'il arrive, tu pourras faire peindre ton portrait en chef de guerre et l'accrocher dans la galerie.
Alors que, si on ne bouge pas, walou. Coquine glousse derrière le paravent. Douracuir enfonce le clou.
Ok, pas besoin d'une nombreuse troupe, Ta Majesté. Juste quelques hommes bien entraînés.
Merlin fait la moue. Coquine intervient de nouveau.
On pourrait en recruter des neufs.
Coquine qui vole au secours de Douracuir, c'est nouveau, pense Merlin. Mais la perspective de se faire peindre en pied.
Douracuir exulte. Mais oui, de nouvelles recrues, on ne touche pas à ta garde. Dis oui, Ta Majesté.
Soit. Merlin a tranché. 2 douzaines d'hommes et tu les trouves en dehors de la garde du palais. Débrouille-toi comme tu veux. Et un budget pour 3 semaines de voyage, pas un copec de plus. N'y reviens pas, c'est mon dernier mot.
Aucun problème. Douracuir claque une bise à Sa Majesté et sort.
Merci, merci, merci. Il s'envole et dévale les escaliers de palier en palier, ne touchant pas les marches. Il a une pensée émue pour ses parents qui ne sont plus de ce monde, puis il prend hardiment le taureau par les cornes.
Voilà, mes petits lus, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Oh.